Hardigan. Hardigan présente Cthulhu, le mythe, tome 2. H.P. Lovecraft. Lu par Nicolas Planchet. L'ombre immémoriale. Chapitre 1. Après 22 ans de cauchemars et de terreurs, et alors que ma seule planche de salut est la conviction désespérée que certaines impressions trouvent leur source dans l'imaginaire, je ne puis garantir la véracité de ce que je pense avoir découvert en Australie-Occidentale dans la nuit du 17 au 18 juillet 1935. Il y a des raisons, d'ailleurs nombreuses, d'espérer que mon expérience relève au moins en partie de l'hallucination. Toutefois, ladite expérience était si atrocement réaliste qu'il m'est parfois impossible de me réfugier derrière cet espoir. Si la chose s'est produite, l'homme doit se préparer à accepter, à propos de l'univers et de sa propre place dans le vortex bouillonnant du temps, des idées dont la mention suffit à glacer le sang. Il faut aussi le mettre en garde contre un danger spécifique et caché qui, même s'il ne submerge pas l'espèce tout entière, pourrait bien plonger les plus aventureux dans des horreurs indicibles et imprévisibles. C'est pourquoi je réclame, de toute la force de mon être, l'abandon définitif des tentatives d'exhumation des fragments d'étranges constructions primitives que mon expédition a entrepris d'étudier. Si l'on part du principe que j'étais éveillé et sain d'esprit, nul homme n'a jamais rien connu de semblable à ce qui m'arriva cette nuit-là. Toujours dans ce cas, cette expérience effroyable vient confirmer tout ce que j'avais tenté de reléguer au rang de mythe et de rêve. Heureusement, il n'y a pas de preuve, car, dans ma terreur, j'ai perdu l'incroyable objet qui, s'il existait vraiment et une fois tiré de ce néfaste abîme, aurait constitué un indice irréfutable. Lorsque j'ai découvert cette horreur, j'étais seul. Et jusqu'à maintenant, je n'en ai jamais parlé à personne. Je n'ai pu dissuader les autres de creuser dans sa direction, mais le hasard et les glissements du sable leur ont pour l'instant épargné de la trouver. Je dois à présent rédiger une déclaration claire, non seulement pour mon propre équilibre mental, mais pour mettre en garde ceux qui voudront bien me lire attentivement. J'écris ces pages, dont les premières seront en grande partie familières aux lecteurs réguliers de la presse générale et scientifique, dans la cabine du bateau qui me ramène chez moi. Je les donnerai à mon fils, le professeur Wingate Peaslee de l'Université Miskatonic, seul membre de ma famille à m'être resté fidèle après mon étrange amnésie il y a longtemps de cela, et personne l'a mieux informé sur les détails de l'affaire. De tous les vivants, il sera le moins enclin à tourner en ridicule ce que je vais révéler sur cette nuit fatidique. Je ne lui ai rien expliqué de vive voix. Je pense qu'il préférera un compte-rendu écrit. Il pourra ainsi le lire et le relire à l'envi et aura donc de l'affaire une vision plus convaincante que si ma langue embrouillée la lui avait décrite. Il pourra faire ce que bon lui semblera de ces pages, les montrer, avec les commentaires appropriés, dans tous les milieux où elles auront une quelconque utilité. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les premiers développements de mon affaire, je ferai précéder la révélation elle-même d'un résumé assez détaillé de son contexte. Je m'appelle Nathaniel Wingate Peaslee, et ceux qui se rappellent les récits des journaux de la génération précédente, ou les lettres et articles des revues de psychologie d'il y a 6 ou 7 ans, sauront qui je suis et ce que je suis. La presse regorgeait de détails sur ma singulière amnésie des années 1908 à 1913, et l'on y parlait beaucoup de l'horreur, de la folie et de la sorcellerie hantant traditionnellement la vieille ville du Massachusetts où j'habitais alors et où je vis encore. Pourtant, je tiens à préciser que, ni mon hérédité, ni ma jeunesse ne présentent aucun caractère de folie, ni quoi que ce soit d'inavouable. Ce fait est particulièrement important, car il souligne l'origine extérieure de l'ombre qui s'est subitement abattue sur moi. Peut-être, après des siècles de sombres ruminations, Arkham, dont les murs croulants sont remplis de murmures, a-t-elle hérité d'une vulnérabilité particulière à ce genre de ténèbres. Mais j'en doute, au vu des autres affaires que j'ai étudiées par la suite. En tout cas, il est essentiel de retenir que mes ancêtres et mon passé sont parfaitement normaux. Ce qui est arrivé est venu d'ailleurs, mais d'où ? J'hésite encore à l'écrire noir sur blanc. Je suis le fils de Jonathan et Anna Wingate Peasley, tous deux issus de saines et vieilles familles d'Averhill. C'est là que je suis né et que j'ai grandi, dans l'antique propriété de Boardman Street, près de Golden Hill, et je ne m'installai à Arkham qu'en 1895, année de mon entrée à l'université Miskatonic, comme professeur d'économie politique. Durant encore 13 ans, la vie s'écoula douce et heureuse. En 1896, j'épousai Alice Kizard d'Averhill et mes 3 enfants, Robert, Wingate et Anna, naquirent respectivement en 1898, 1900 et 1903. En 1898, je devins maître de conférences et, en 1902, professeur titulaire. Je n'éprouvais pas le moindre attrait pour l'occultisme ou la psychopathologie. C'est le jeudi 14 mai 1908 que survint mon inexplicable amnésie. Cela arriva très brusquement, même si plus tard je m'aperçus que de brèves visions scintillantes précédant de plusieurs heures la perte de mémoire, visions chaotiques d'autant plus troublantes qu'elles étaient sans précédent, avaient dû constituer des symptômes annonciateurs. J'avais mal à la tête et l'impression bizarre, totalement inédite pour moi, que quelqu'un cherchait à prendre possession de mes pensées. La crise se produisit vers 10h20 du matin, alors que je donnais un cours, histoire et tendance actuelle de l'économie politique, aux étudiants de 3e année et quelques 2e années. Je me mis à discerner de drôles de formes devant mes yeux. Puis j'eus l'impression de me trouver dans une pièce insolite qui n'était pas ma salle de classe. Comme je m'écartais en pensée et en parole du sujet que je traitais, les étudiants comprirent que quelque chose n'allait pas. Je m'affaissai alors sur ma chaise inconscient, et nul ne parvint à me tirer de ma stupeur. Je ne retrouvai mes facultés et ne revis la lumière du jour de notre monde normal que 5 ans, 4 mois et 13 jours plus tard. C'est bien sûr de la bouche des autres que j'appris ce qui suit. Je ne montrai aucun signe de conscience pendant 16h30, bien qu'on m'ait ramené chez moi au 27 Crane Street, où l'on me prodigua les meilleurs soins médicaux possibles. À 3h de l'après-midi, le 15 mai, mes yeux s'ouvrirent et je me mis à parler. Ma famille fut épouvantée par mon expression et mes propos. Il était clair que je n'avais aucun souvenir ni de mon identité, ni de mon passé, même si, pour quelques raisons étranges, je m'efforçais de cacher mon ignorance. Je posai un regard étrangement vitreux sur les gens qui m'entouraient, et mes muscles faciaux bougeaient de manière tout à fait inhabituelle. Mon langage même paraissait gauche et étranger. J'utilisais mes organes vocaux avec maladresse, comme à tâtons, et ma diction était curieuse, raide, comme si j'avais laborieusement appris l'anglais dans les livres. Ma prononciation était étrangère et barbare. Quant au style de mon langage, il incorporait apparemment de curieux éléments archaïques et des expressions à la tournure tout à fait incompréhensible. Parmi ces dernières, l'une en particulier revint 20 ans plus tard de manière marquante, voire terrifiante, à l'esprit du plus jeune de mes médecins. En effet, à l'époque, l'expression en question commença à passer dans l'anglais courant. D'abord en Angleterre, puis aux États-Unis, et bien que très complexe et indéniablement nouvelle, elle reproduisait dans les moindres détails les paroles sibyllines prononcées par l'étrange malade d'Arkham en 1908. Je recouvrais aussitôt ma force physique, mais il me fallut une rééducation étonnamment longue pour recouvrer l'usage de mes mains, de mes jambes et de mon corps en général. À cause de cela et d'autres handicaps liés à la perte de mémoire, on me garda un certain temps sous étroite surveillance médicale. Quand je vis que mes efforts pour dissimuler mon amnésie étaient vains, je reconnus ouvertement en être atteint et me montrai très demandeur de renseignements de toutes sortes. En fait, les docteurs avaient l'impression que j'avais perdu tout intérêt pour ma propre identité, à partir du moment où j'avais compris que mon amnésie était acceptée comme quelque chose de naturel. Ils remarquèrent que je consacrais le gros de mes efforts à maîtriser certains points d'histoire, de science, d'art, de langue et de folklore, les uns incroyablement abscons, les autres d'une simplicité enfantine, ce qui très souvent, bizarrement, échappait à ma conscience. En même temps, ils s'aperçurent que j'avais beaucoup de connaissances inexplicables dans des domaines inconnus du plus grand nombre, connaissances que je semblais vouloir cacher plutôt que d'en faire la démonstration. Il m'arrivait par mégarde de faire allusion, avec assurance et désinvolture, à des événements précis ayant eu lieu dans des âges sombres sortant du champ historique reconnu, et de feindre de plaisanter dès lors que je m'apercevais de la surprise que suscitaient mes anecdotes. De même, la manière dont j'avais de parler du futur provoqua à deux ou trois reprises un véritable effroi chez mes interlocuteurs. Ces mystérieuses visions cessèrent vite, mais certains observateurs attribuaient davantage leur disparition à une prudence sournoise de ma part qu'à un quelconque déclin de l'étrange savoir qu'elle supposait. En effet, je paraissais anormalement avide de m'imprégner du langage, des coutumes et des perspectives de l'époque, tel un voyageur studieux venu d'une lointaine terre étrangère. Dès qu'on m'y autorisa, je fréquentais la bibliothèque de l'université à toute heure. Bien vite, je commençais à préparer ces drôles de voyages et ces cours spéciaux dans des universités d'Amérique et d'Europe qui, dans les quelques années qui suivirent, donnèrent lieu à tant de commentaires. Je ne manquais jamais de relations dans les cercles érudits, mon cas étant assez célèbre chez les psychologues de l'époque. Je faisais l'objet de conférences en tant qu'exemple classique de dédoublement de personnalité, même s'il m'arrivait d'embarrasser les conférenciers à cause de quelques symptômes bizarres ou d'une trace suspecte de moquerie soigneusement voilée. En revanche, je ne rencontrais guère de véritable bienveillance. Quelque chose dans mon aspect et mes propos paraissait éveiller une sorte de crainte et de dégoût chez tous ceux que je rencontrais, comme si j'avais été un être anormal et malsain. Cette idée d'un noir secret lié à de lointaines abîmes insondables semblait étrangement tenace et répandue. Ma propre famille ne faisait pas exception. Depuis mon étrange réveil, ma femme me considérait avec un effroi et une répugnance extrême, jurant que j'étais un parfait étranger qui avait usurpé le corps de son mari. En 1910, elle obtint le divorce, et jamais elle ne consentit à me revoir, pas même après que j'eus recouvré mon état normal en 1913. Ses sentiments étaient partagés par mon fils aîné et ma petite fille, que je n'ai plus jamais revue. Seul mon second fils, Wingate, paraissait capable de surmonter la répulsion que ma métamorphose suscitait. Et s'il avait lui aussi l'impression que j'étais un étranger, du haut de ses 8 ans, il croyait dur comme fer au retour de mon vrai moi. Quand le moment tant attendu arriva, il chercha à me revoir, et les tribunaux me confièrent sa garde. Au cours des années qui suivirent, il m'aida dans les études que je fus amené à entreprendre et, aujourd'hui, à 35 ans, il est professeur de psychologie à l'université Miskatonic. L'horreur que je suscitais n'a rien d'étonnant, car à n'en point douter, l'esprit, la voix et les expressions faciales de l'être qui se réveilla le 15 mai 1908 n'étaient pas ceux de Nathaniel Wingate Peaslee. Je ne m'étendrai pas sur ma vie entre 1908 et 1913. Le lecteur pourra en chercher les grandes lignes, comme j'ai moi-même dû le faire abondamment, dans les archives des vieux journaux et revues scientifiques. on me rendit l'usage de mes fonds, que je dépensais lentement avec une relative sagesse en voyages et études, dans divers lieux de savoir. Mes voyages, cependant, étaient extrêmement singuliers, car ils consistaient en de longues visites d'endroits retirés et désolés. En 1909, je passai un mois dans l'Himalaya, et en 1911, j'éveillai un vif intérêt en me rendant à dos de chameau dans les déserts inconnus d'Arabie. Je n'ai jamais su ce qui m'était arrivé au cours de ces expéditions. Pendant l'été 1912, j'affrétai un bateau pour naviguer en Arctique, au nord du Spitzberg. À mon retour, je montrai des signes de déception. Plus tard, la même année, je passai des semaines seul, au-delà des limites de toute exploration passée ou ultérieure, dans les vastes réseaux de cavernes calciques de Virginie occidentale, de noirs labyrinthes d'une complexité telle qu'il ne fut jamais envisageable de reconstituer mon parcours. Au cours de mes séjours dans les universités, je fis preuve d'une rapidité d'assimilation anormale, comme si ma seconde personnalité était dotée d'une intelligence très supérieure à la mienne. J'ai aussi découvert que mon rythme de lecture et de recherche solitaire était phénoménal. Je parvenais à maîtriser tous les détails d'un livre le temps d'en tourner les pages, et mon aptitude à interpréter des chiffres complexes en un clin d'œil était véritablement impressionnante. D'inquiétantes rumeurs apparaissaient parfois sur ma capacité à influencer les pensées et les actes d'autrui, même si, semble-t-il, je prenais soin de ne pas abuser de ce genre de démonstration. On parlait aussi de mes rapports avec des chefs de groupe d'occultistes et des savants suspectés d'être liés à des cliques innommables d'abjects hiérophantes du monde ancien. Bien que rien ne soit venu confirmer ces bruits à l'époque, ils se trouvèrent sans doute encouragés par ce qui transpirait sur la teneur de mes lectures, la consultation de livres rares dans les bibliothèques ne pouvant être gardée secrète. Mes annotations forment une preuve tangible que j'ai compulsé avec minutie des ouvrages tels que « Le culte des goules » du comte d'Erlette, « Des vermis mysteriis » de Ludwig Prin, « L'Unaussprechlichen Kulten » de von Schunz, les derniers fragments de l'énigmatique livre d'Aibon et l'effroyable Necronomicon de l'arabe dément Abdul al-Azred. Il faut dire aussi que les cultes connurent un indéniable et néfaste regain d'activité à peu près au moment de mon étrange transformation. Durant l'été 1913, je commençais à montrer des signes d'ennui, de désintérêt, et à laisser entendre autour de moi que l'on pouvait s'attendre à me voir changer sous peu. J'affirmais recouvrer des souvenirs de mon ancienne vie. Cependant, la plupart de mes interlocuteurs mirent en doute ma bonne foi, car je me contentais d'évoquer des anecdotes que j'aurais pu tirer de mes vieux papiers personnels. Vers la mi-août, je retournais à Arkham et rouvris ma maison depuis longtemps inhabitée de Crane Street. J'y installai une machine d'aspect particulièrement curieux, construite petit à petit par divers fabricants d'équipements scientifiques d'Europe et d'Amérique, et que je pris soin de cacher à la vue de quiconque était assez intelligent pour en comprendre l'usage. Ceux qui la virent, un ouvrier, une domestique et la nouvelle gouvernante, la décrivent comme un mélange bizarre de tiges, de roues et de miroirs, mesurant à peine 60 cm de haut, 30 de large et autant de profondeur. Le miroir central était rond et convexe. Toutes ces données sont confirmées par les fabricants que l'on a pu retrouver. Le soir du vendredi 26 septembre, je donnai congé à la gouvernante et à la servante jusqu'au lendemain midi. Les lumières restèrent allumées tard cette nuit-là, et un brin maigre à l'allure curieusement étrangère se présenta à la maison en automobile. Les lumières s'éteignirent vers 1 h du matin. À 2h15, un policier remarqua que la maison était dans le noir, mais que la voiture du visiteur était toujours garée le long du trottoir. On sait qu'à 4 h, elle était repartie. C'est à 6 h qu'une voix étrangère demanda dans un anglais hésitant au docteur Wilson de venir me tirer d'un évanouissement inexplicable. On détermina plus tard que l'appel longue distance venait d'une cabine publique de la gare du Nord à Boston, mais on ne retrouva jamais la trace du brin maigre. En arrivant chez moi, le médecin me trouva inconscient au salon dans un fauteuil devant lequel on avait traîné une table. Et la surface polie de cette dernière portait des éraflures laissées par un lourd objet. L'étrange machine avait disparu et on ne la revit jamais. De toute évidence, l'étranger l'avait emportée. Il y avait dans la cheminée de la bibliothèque un gros tas de cendres, preuve que l'on avait brûlé jusqu'à la dernière page les notes que j'avais prises depuis le début de mon amnésie. Le docteur Wilson jugea ma respiration tout à fait anormale, mais après une injection hypodermique, elle redevint plus régulière. À 11h15, le matin du 27 septembre, je remuais vigoureusement et mon visage jusque-là figé commença à montrer des signes d'animation. Le docteur Wilson remarqua que mon expression n'était pas celle de ma personnalité secondaire, mais rappelait beaucoup mon moi normal. Vers 11h30, je balbutiais quelques syllabes très curieuses qui ne semblaient appartenir à aucune langue humaine. Je donnais aussi l'impression de lutter contre quelque chose. Puis, juste après midi, la gouvernante et la servante étant rentrées entre-temps, je marmonnais mes premiers mots en anglais. Parmi les économistes orthodoxes de cette période, Jevon représente la tendance prédominante cherchant à corréler l'économie et les sciences. Sa tentative pour relier le cycle commercial de la prospérité et de la dépression au cycle physique des tâches solaires constitue peut-être le point culminant de... L'esprit de Nathaniel Wingate Paisley était de retour et, dans son échelle temporelle propre, on était toujours un jeudi matin de 1908 au moment où les regards de la classe d'économie étaient rivés sur le vieux bureau juché sur son estrade. Chapitre 2. Mon retour à la vie normale fut douloureux et difficile. Perdre un peu plus de 5 ans suscite plus de complications qu'on peut l'imaginer. Dans mon cas, il existait une multitude de problèmes à régler. Et ce que j'appris sur mes faits et gestes depuis 1908 m'étonna et me troubla, mais je m'efforçais de prendre les choses avec toute la philosophie dont j'étais capable. Quand enfin j'obtins la garde de mon second fils Wingate, je m'installai avec lui dans la maison de Crane Street et tentai de me remettre à enseigner, l'université m'ayant aimablement proposé de récupérer ma chaire. Je repris donc le travail au début du trimestre de février 1914, mais ne restait qu'un an. J'avais compris que l'expérience m'avait ébranlé. Certes, j'étais parfaitement sain d'esprit, du moins je l'espérais, et j'avais recouvré toute ma personnalité originelle. Toutefois, je n'avais plus mon énergie d'antan. J'étais sans cesse en proie à des rêves confus et à des idées singulières, et quand le déclenchement de la guerre me fit m'intéresser à l'histoire, je m'aperçus que je me représentais les époques et les événements de la plus étrange des façons. Ma conception du temps, ma capacité à distinguer successivité et simultanéité semblait quelque peu désordonnée, et je conçus l'idée chimérique qu'en vivant à une époque donnée, on pouvait projeter son esprit à travers l'éternité afin de connaître le passé et l'avenir. La guerre me donnait l'insolite impression de me rappeler certaines de ses conséquences lointaines, comme si j'avais connu son déroulement à l'avance et que je l'eusse observé à la manière d'informations futures. Tous ces pseudo-souvenirs s'accompagnaient d'une grande souffrance et du sentiment que quelques barrières artificielles de nature psychologique les retenaient. Lorsque, d'un ton mal assuré, j'évoquais autour de moi mes impressions, je rencontrais des réactions variées. Si certaines personnes me considéraient avec gêne, les enseignants du département de mathématiques parlèrent du développement inédit de ces théories de la relativité qui deviendraient si célèbres par la suite, mais n'étaient alors connus que des cercles cultivés. Le docteur Albert Einstein, disait-on, allait vite réduire le temps à l'état de simple dimension. Mais mes rêves et sensations étranges finirent par prendre le dessus, à tel point qu'en 1915 je dus démissionner. Ces troubles prenaient vraiment un tour fâcheux, et je nourrissais l'idée tenace que mon amnésie avait donné lieu à une sorte d'échange contre nature, que ma personnalité secondaire était en fait une intruse venue de régions inconnues pour se substituer à ma propre personnalité. Cela me conduisit à formuler des spéculations aussi troubles qu'effrayantes sur le sort de mon moi véritable pendant ces années où un autre avait habité mon corps. Les connaissances et le comportement étrange de cet ancien locataire m'inquiétaient de plus en plus à mesure que j'apprenais de nouveaux détails en discutant avec les gens ou en compulsant journaux et magazines. Les extravagances qui avaient tant déconcerté les autres s'accordaient effroyablement bien avec la toile de fond de ce noir savoir couvant dans les profondeurs de mon inconscient. Je me mis à étudier fiévreusement la moindre parcelle d'informations en rapport avec les recherches et voyages que « l'autre » avait entrepris au cours des années d'obscurité. Tous mes problèmes n'étaient pas aussi abstraits. Il y avait aussi les rêves, et ils me paraissaient de plus en plus réalistes. Conscient de la manière dont la plupart des gens les considéreraient, j'en parlais rarement, sinon à mon fils ou à certains psychologues dignes de confiance, jusqu'à ce qu'enfin j'entreprenne d'étudier scientifiquement d'autres cas, pour savoir si, oui ou non, ce genre de vision était habituel chez les gens victimes d'amnésie. Tout d'abord, les résultats que j'obtins avec l'aide de psychologues, d'historiens, d'anthropologues, de spécialistes très au fait de la chose mentale, et par une étude de tous les cas de dédoublement de personnalité depuis l'époque des légendes de possession démoniaque jusqu'au présent médicalement réaliste, m'inquiétèrent plus qu'ils ne me réconfortèrent. En effet, je compris vite que mes rêves n'avaient pas d'équivalent parmi l'immense corpus des cas d'amnésie véritable. Cependant, je trouvais une poignée d'exemples dont la ressemblance avec mon propre cas me déconcerta et me marqua pour les années à venir. Il s'agissait de fragments de folklore ancien, ou d'extraits d'annales médicales, ou encore d'une ou deux anecdotes obscures se cachant derrière des épisodes anodins de l'histoire. Il apparaissait donc qu'en dépit de l'extrême rareté de ma singulière affection, des cas s'étaient présentés à de longs intervalles, et ce depuis le début des chroniques humaines. Certains siècles en comptaient un, deux, voire trois cas, d'autres aucun, ou du moins aucun dont on ait gardé trace. Pour l'essentiel, l'histoire était toujours la même. Une personne, à l'esprit songeur mais aiguisé, était envahie par une étrange personnalité secondaire et menait, pour une période plus ou moins longue, une vie parallèle caractérisée dans un premier temps par une élocution et des mouvements maladroits, puis par l'acquisition massive de connaissances scientifiques, historiques, artistiques et anthropologiques. Acquisition menée avec une ardeur effrénée et facilitée par une capacité d'assimilation totalement anormale. Enfin, le sujet recouvrait brusquement sa conscience légitime, tout en étant sa vie durant tourmentée par des rêves occasionnels, confus et indéfinissables, suggérant par fragments l'existence d'effroyables souvenirs effacés avec soin. Quant à la forte ressemblance entre ses cauchemars et les miens, y compris dans les moindres détails, elle ne me laissait aucun doute sur leur origine de toute évidence identique. Un ou deux cas présentaient en plus de légers accents de familiarité sacrilège, comme si j'en avais déjà entendu parler par quelque canal cosmique si effroyable et malsain qu'il valait mieux oublier son existence. À trois occasions, je trouvais des mentions spécifiques à une machine inconnue comme celle que l'on avait vue chez moi avant le second changement. J'étais aussi inquiet de découvrir au fil de mon enquête des cas légèrement plus fréquents, où des gens avaient de brèves visions comparables à mes cauchemars, sans pour autant avoir été atteint d'amnésie caractérisée. Les personnes en question, pour la plupart, avaient au mieux un niveau intellectuel médiocre, certaines étant même si primitives qu'on ne pouvait guère les imaginer en réceptacle d'une érudition hors du commun et d'une capacité d'acquisition mentale surnaturelle. L'espace d'une seconde, elles étaient animées par une force étrangère. Puis c'était la rechute, et il ne leur restait qu'une faible réminiscence éphémère d'horreur inhumaine. Au cours du demi-siècle qui venait de s'écouler, on avait connu trois exemples de ce genre, dont l'un datait de 15 ans à peine. Était-il l'œuvre d'une entité surgie d'un abîme insoupçonné de la nature pour traverser le temps à tâtons? Ces cas plus légers constituaient-ils de monstrueuses et sinistres expériences dont l'origine et l'auteur étaient totalement inconcevables pour l'esprit sensé? C'étaient là quelques-unes des hypothèses approximatives que je formais à mes heures les plus sombres. Autant de chimères inspirées des mythes que j'exhumais au fil de mes recherches. Il n'était pas permis d'en douter. Certaines légendes tenaces remontant à des temps immémoriaux et apparemment inconnues des victimes et des médecins travaillant sur les cas d'amnésie récents n'étaient que des versions élaborées, plus frappantes et impressionnantes, d'anecdotes fondées sur des pertes de mémoire comme la mienne. Aujourd'hui encore, j'ai presque peur de parler de la nature de ces rêves et impressions si bruyants. Ils avaient un goût de folie et, d'ailleurs, je crois parfois devenir fou. Existait-il un type précis de vision propre aux anciens amnésiques? Il est concevable que les efforts du subconscient pour remplir de pseudo-souvenirs ces blancs déconcertants donnent lieu à d'étranges errances imaginatives. Et d'ailleurs, bien qu'une autre théorie portant sur le folklore m'ait finalement semblé plus plausible, telle fut l'opinion de bien des aliénistes parmi ceux qui m'aidèrent dans ma recherche de ces cas analogues et partagèrent ma perplexité devant les troublantes ressemblances que nous observâmes parfois. Ils ne parlaient pas de folie véritable, mais rangeaient plutôt mon état parmi les névroses. Ils soutenaient de tout cœur ma démarche consistant à essayer de l'identifier et de l'analyser au lieu de chercher en vain à la nier ou à l'oublier, car cette approche était conforme aux meilleurs principes psychologiques. J'accordais une valeur particulière au conseil des médecins qui m'avaient suivi alors que j'étais possédé par une autre personnalité. Mes premiers troubles ne furent pas du tout d'ordre visuel, mais portaient sur les sujets plus abstraits dont j'ai déjà parlé. J'éprouvais aussi une profonde et inexplicable répugnance à mon propre égard et une angoisse insolite en me regardant, comme si mes yeux avaient trouvé à mon enveloppe quelque chose de parfaitement étranger et d'incommensurablement écœurant. Lorsque, jetant un coup d'œil sur moi-même, je voyais ma forme humaine familière dans son discret costume gris ou bleu, je ressentais systématiquement un curieux soulagement. Cependant, pour accéder à ce soulagement, je devais d'abord surmonter une crainte infinie. J'évitais autant que possible les miroirs et me faisais toujours raser chez le barbier. Il me fallut beaucoup de temps pour établir un lien entre ces frustrations et les visions éphémères qui commençaient à apparaître. Le premier rapprochement que je fis concernait l'étrange sensation qu'une force extérieure entravait artificiellement ma mémoire. J'étais certain que ces fragments visuels avaient un sens terrible et profond, ainsi qu'un effroyable rapport avec moi-même, mais que l'on m'empêchait délibérément de percevoir ces derniers. Ensuite, vint cette insolite conception du temps s'accompagnant d'efforts désespérés pour ranger mes visions oniriques parcellaires dans l'ordre chronologique, mais aussi sur le plan spatial. Au début, les images en question étaient plus bizarres qu'horribles. J'avais l'impression de me trouver dans une immense salle voûtée et dont les hautes arêtes de pierre se perdaient presque dans l'ombre au-dessus de ma tête. Quelle que soit l'époque et le lieu où se passaient ces rêves, le principe de l'arc y était aussi connu et amplement utilisé qu'au temps des Romains. Les fenêtres rondes étaient colossales, les hautes portes cintrées, et les tables et bureaux auraient atteint le plafond d'une pièce ordinaire. Le long des murs couraient de vastes étagères de bois sombre, sur lesquelles étaient entreposés des volumes au format démesuré et dont le dos était marqué d'étranges hiéroglyphes. Sur la pierre apparente étaient sculptés de drôles de motifs mathématiques curvilignes et des inscriptions ciselées dans les mêmes caractères que ceux figurant sur le livre gigantesque. La maçonnerie de granit sombre était colossale, de type mégalithique. Les blocs à sommet convexe et à base concave s'emboîtaient rangée après rangée. Il n'y avait pas de chaises, mais le dessus des bureaux géants était jonché de livres, de papiers et de matériel servant sans doute à écrire. Des pots de métal violâtre, de forme bizarre, et des tiges au bout taché. Malgré la taille des meubles, je parvenais parfois à les voir d'en haut. Sur certains étaient posés de grands globes de cristal lumineux, servant de lampes et d'incompréhensibles machines, composées de tubes de verre et de barres métalliques. Les fenêtres vitrées étaient treillissées de solides barreaux. Je n'osais pas approcher pour regarder au dehors, mais, de là où je me tenais, j'apercevais les cimes ondulantes d'une singulière végétation rappelant des fougères. Le sol était couvert de grosses dalles octogonales, et il n'y avait ni tapis ni tenture. Plus tard, je me vis flotter à toute vitesse le long des couloirs de pierre cyclopéens, et monter ou descendre les gigantesques pans inclinés bâtis dans la même architecture monstrueuse. Il n'y avait jamais ni escalier, ni aucun passage faisant moins de 10 mètres de large. Certaines des structures que je parcourais devaient culminer à plus de 1000 mètres. Sous terre se succédaient d'innombrables étages de caveaux noirs et de trappes scellées par des bandes métalliques et jamais ouvertes, sombre suggestion de la présence d'un danger très spécial. J'étais apparemment prisonnier, et je sentais une terrible menace peser partout où se portait mon regard. Si je n'avais été protégé par ma bienheureuse ignorance, le message de ces hiéroglyphes curvilignes et moqueurs aurait à coup sûr dévasté mon âme. Plus tard encore, je vis dans mes rêves le panorama depuis les grandes fenêtres rondes, ou depuis le titanesque toit plat auquel menait le plus élevé des plans inclinés, avec ses curieux jardins, son large espace vide et son haut parapet de pierre festonnée. Sur des lieux et des lieux, des bâtiments géants dotés de jardins individuels s'alignaient le long de routes pavées larges d'au moins 70 mètres. Ils étaient d'aspect très différent, mais peu d'entre eux faisaient moins de 150 mètres carrés au sol ou de 300 mètres de haut. Beaucoup étaient si colossaux que leurs façades devaient mesurer des kilomètres, tandis que certains s'élevaient à des altitudes dignes de montagnes dans les cieux gris et brumeux. Ils étaient presque entièrement en pierre ou en béton et, pour la plupart, dans le style architectural étrangement curviligne de l'immeuble où j'étais détenu. Les toits étaient plats et couverts de jardins, et les parapets festonnés ne manquaient pas. Il y avait parfois des terrasses et des étages surélevés, ainsi que de larges espaces dégagés au milieu des jardins. Je croyais apercevoir du mouvement sur les routes immenses, mais, dans mes premières visions, je ne parvins pas à interpréter cette impression au point d'en percevoir les détails. Par endroits, je discernais d'énormes tours sombres et cylindriques qui dépassaient largement toutes les autres constructions. Elles semblaient de nature tout à fait unique et paraissaient prodigieusement vieilles et décrépites. Construites à base d'étranges blocs de basalte taillés à angle droit, elles s'évasaient légèrement à mesure qu'approchait leur sommet arrondi. Je ne leur voyais pas la moindre fenêtre, ni une quelconque ouverture en dehors de leurs portes géantes. Je remarquais aussi quelques édifices plus bas, croulant sous le poids des millénaires, et dont l'architecture générale rappelait celle des tours cylindriques. Autour de ces empilements aberrants de blocs cubiques flottait une inexplicable aura de menaces et de peurs concentrées, Ra, semblable à celle qui entourait les trappes scellées. Les jardins, omniprésents, étaient d'une étrangeté presque terrifiante. Leur végétation aux formes étonnantes, inhabituelles, se balançait au-dessus de larges allées bordées de monolithes couverts de sculptures curieuses. L'espèce prédominante était une sorte de fougère anormalement grande, dont certains spécimens étaient verts et d'autres d'une horrible pâleur fongeoïde. Parmi ces végétaux se dressaient de grandes silhouettes spectrales, ressemblant à des calamites et dont le tronc semblable à du bambou s'élevait à une hauteur incroyable. Il y avait aussi des touffes de plantes, rappelant de prodigieuses cicadales et d'extravagants arbres et arbustes vert foncé proches de nos conifères. Des petites fleurs incolores et non identifiables poussaient soit en parterre géométrique, soit librement dans la verdure. Dans quelques jardins de terrasse ou de toit, j'en aperçus de plus grandes et plus colorées, dont les formes particulièrement révoltantes me conduisirent à penser qu'il s'agissait de croisements artificiels. Des champignons, de taille et de couleur aussi inconcevables que leur silhouette, parsemaient le paysage suivant des dessins qui témoignaient d'une tradition horticole inconnue, mais bien établie. Dans les jardins plus vastes au niveau du sol, on devinait un souci de préserver les irrégularités de la nature, mais sur les toits, les plantes étaient visiblement sélectionnées dans une visée artistique. Les cieux étaient presque toujours humides ou nuageux, et il m'arrivait d'assister à des averses impressionnantes. De temps à autre, cependant, le soleil, qui me semblait particulièrement grand, faisait des apparitions, de même que la lune dont les taches me semblaient inhabituelles sans que je sache vraiment pourquoi. Dans les très rares cas où le ciel nocturne était un tant soit peu dégagé, j'observais des constellations presque méconnaissables. Certaines ressemblaient aux figures connues, mais elles n'étaient quasiment jamais identiques. À la position des quelques groupements que je reconnus, je conclus que je devais me trouver dans l'hémisphère sud, près du tropique du Capricorne. L'horizon lointain était invariablement brumeux et indistinct, mais j'apercevais hors de la ville de vastes jungles de fougères arborescentes inconnues, de calamites, de lépidodendrons, de sigillaires dont les frondes fantastiques se balançaient, narquoises, dans les vapeurs ondulantes. Par moments, je devinais des mouvements dans le ciel, mais cela resta l'état d'impression dans mes premières visions. À l'automne 1914, je commençais à faire des rêves occasionnels dans lesquels je flottais inexplicablement au-dessus de la ville et des régions environnantes. Je vis des routes interminables, traverser des forêts à la végétation effroyable, dont les troncs étaient tachetés, cannelés ou rayés, et passer devant d'autres cités non moins étranges que celles qui s'obstinaient à me hanter. Je découvris deux monstrueux édifices de pierre noire ou iridescentes, dans des clairières où régnait un crépuscule perpétuel, et parcourus de longues chaussées à travers des marais si sombres que je ne discernais pas grand-chose de leur végétation humide et géante. Je vis une fois une gigantesque plaine jonchée de ruines basaltiques ravagées par les années, et dont l'architecture était semblable à celle des quelques tours de la ville obsédante, avec leurs murs sans fenêtres et leurs sommets arrondis. Enfin, je vis même la mer, étendue sans bornes et fumante au-delà des colossales jetées de pierre d'une cité aux dômes et arches tout aussi colossaux. De grandes ombres informes se déplaçaient au-dessus d'elle et, ici et là, de curieux jaillissements troublaient la surface des eaux. Troisième partie. Comme je l'ai dit, ces visions absurdes n'eurent tout d'abord aucun caractère effrayant. Je suis certain que beaucoup de gens font des rêves intrinsèquement plus étranges, collages de fragments de leur vie quotidienne sans lien entre eux, d'images, de lectures, combinées sous des formes inédites et fantastiques par les caprices incontrôlables du sommeil. Pendant un temps, je crus avoir affaire à des visions naturelles, même si je n'avais encore jamais été un rêveur extravagant. Nombre des vagues anomalies que je voyais, supposais-je, devaient provenir de sources banales si nombreuses qu'il était vain de chercher à les identifier. D'autres témoignaient de connaissances de base sur les plantes et autres éléments environnementaux du monde primitif tel qu'il était il y a 150 millions d'années, à l'âge permien ou triasique. En l'espace de quelques mois, cependant, l'élément de terreur se fit de plus en plus intense. C'est à cette époque que les rêves se mirent à ressembler systématiquement à des souvenirs et que mon esprit commença à les relier à l'aggravation de mes troubles abstraits. L'impression d'entrave mnémonique, ma curieuse manière de concevoir le temps, le sentiment détestable d'avoir échangé mon corps avec ma personnalité secondaire entre 1908 et 1913 et, nettement plus tard, l'inexplicable aversion que je ressentis envers moi-même. À mesure que des détails précis faisaient irruption dans mes rêves, l'horreur que ces derniers m'inspiraient devenait mille fois pire, à tel point qu'en octobre 1915, je compris qu'il me fallait agir. C'est alors que j'entrepris d'étudier en profondeur les autres cas d'amnésie et de vision, sentant que cela m'aiderait à avoir un point de vue objectif sur mon problème et à me soustraire à son emprise émotionnelle. Toutefois, comme dit précédemment, j'obtins dans un premier temps un résultat presque opposé. Je fus extrêmement troublé de constater que d'autres avaient fait les mêmes rêves que moi, d'autant que certains cas étaient trop anciens pour que les sujets aient pu avoir des connaissances en géologie, et donc la moindre idée de ce à quoi pouvaient ressembler les paysages primitifs. De plus, nombre de comptes rendus fournissaient des détails et explications tout à fait horrifiants sur nos visions d'édifices géants, de jardins sauvages, entre autres choses. Les images en elles-mêmes et les vagues impressions étaient déjà horribles, mais ce que certains rêveurs suggéraient ou affirmaient sentait la folie et le blasphème. Le comble était que ces histoires incitaient ma propre pseudo-mémoire à produire des rêves plus délirants et à pressentir d'imminentes révélations. Et pourtant, la plupart des médecins jugeaient que, dans l'ensemble, ma démarche était recommandable. Je me consacrai donc à fond à l'étude de la psychologie, et cela encouragea mon fils Wingate à faire de même, ce qui l'amena à occuper sa chaire actuelle. En 1917 et 1918, je pris des cours spéciaux à l'université Miskatonic. En même temps, mes recherches désormais ininterrompues dans les domaines de la médecine, de l'histoire et de l'anthropologie me conduisirent à visiter de lointaines bibliothèques, et je finis même par lire d'abominables ouvrages sur l'antique tradition interdite qui avait éveillé l'intérêt si troublant de mon autre personnalité. Certains de ces livres étaient les exemplaires mêmes que j'avais déjà consultés dans mon état second, et je fus bouleversé de trouver dans ces textes hideux des annotations et des corrections très voyantes, portées dans une écriture et des termes qui me semblaient étrangement inhumains. La plupart de ces notes étaient rédigées dans les langues respectives des différents livres, langues que le lecteur semblait posséder avec le même bonheur, même si son expression était de toute évidence scolaire. Néanmoins, l'une de ces notes, ajoutée à « L'Unaussprechlichen Kulten » de von Jones, était d'une nature différente et fort alarmante. Écrite en hiéroglyphe curviligne dans la même encre que les corrections en allemand, elle ne correspondait à aucun modèle humain connu. Quant aux symboles, ils étaient étroitement et indéniablement apparentés à ceux que je rencontrais encore et toujours dans mes rêves, ces mêmes caractères dont parfois, à l'espace d'un instant, je m'imaginais connaître la signification ou être sur le point de me la rappeler. Pour ajouter à ma noire confusion, les bibliothécaires m'assurèrent qu'au vu de l'historique des consultations des volumes en question, je devais avoir porté toutes ces annotations moi-même, alors que j'étais dans mon état second. Et cela malgré le fait qu'à l'époque comme aujourd'hui, j'ignorais trois des langues utilisées, En rassemblant les documents disséminés, qu'ils soient anciens ou modernes, anthropologiques ou médicaux, j'obtins un mélange assez cohérent de mythes et d'hallucinations, dont l'importance et l'extravagance me laissèrent totalement médusé. Le seul point réconfortant était le fait que les mythes soient si anciens. Je ne parvenais même pas à imaginer quelle connaissance perdue avait pu engendrer l'introduction d'images du paléozoïque ou du mésozoïque dans ces fables primitives. Mais en tout cas, ces images étaient bien là. J'avais donc trouvé un fondement pour la formation d'un type récurrent d'hallucination. Des cas d'amnésie avaient sans nul doute dessiné la forme générale des mythes, mais, par la suite, l'accumulation capricieuse de ces derniers avait dû agir sur les amnésiques en colorant leurs pseudo-souvenirs. Pendant ma perte de mémoire, j'avais moi-même lu et entendu toutes les vieilles légendes. Mes recherches l'avaient amplement démontré. Par conséquent, n'est-il pas naturel que mes rêves et impressions affectives ultérieures aient été teintées et façonnées par ce que ma mémoire avait secrètement retenu de mon autre personnalité? Quelques mythes avaient des liens notables avec d'autres légendes obscures du monde préhumain, en particulier avec les contes hindous faisant état de stupéfiants abîmes temporels et qui sont intégrés à la tradition des théosophes actuels. Mythes primitifs et hallucinations modernes menaient à la conclusion que l'humanité n'est qu'une, et peut-être la moindre, des races hautement évoluées, ayant dominé l'histoire longue et presque inconnue de cette planète. Les uns comme les autres, ils laissaient entendre que des êtres à la forme inconcevable avaient dressé des tours dans le ciel et étudié tous les secrets de la nature avant que le premier ancêtre amphibie de l'homme ne sorte en rampant de l'océan chaud, voici 300 millions d'années. Certains venaient des étoiles. Quelques-uns étaient aussi vieux que l'univers. D'autres s'étaient vite développés à partir de germes terrestres aussi éloignés de ceux qui nous donnèrent naissance que l'homme est éloigné de ces derniers. On n'hésitait pas à parler en milliards d'années, et il était question de relations avec d'autres galaxies, d'autres univers. En réalité, le temps tel que le comprennent les humains ne semblait pas exister. Mais la plupart des contes et visions portaient sur une espèce relativement récente, d'apparence insolite et complexe, ne ressemblant à aucune forme de vie connue de la science, et qui s'était éteinte 50 millions d'années seulement avant l'avènement de l'homme. Cette espèce, apprenait-on dans les mythes, était la plus grande de toutes, car elle avait découvert le secret du temps. Elle avait assimilé tout ce qu'il y avait et tout ce qu'il y aurait à savoir sur la terre, grâce à la faculté de ses esprits les plus affûtés à se projeter dans le passé et le futur, même à des millions d'années, afin d'étudier les connaissances de chaque époque. Les réussites de cette espèce avaient donné naissance à toutes les légendes de prophètes, y compris celles des mythologies humaines. Dans ces vastes bibliothèques, on trouvait des ouvrages dont les textes et images répertoriaient la totalité des annales terrestres, l'histoire et la description de toutes les espèces qui avaient été ou seraient, avec des archives complètes sur leurs arts, leurs réalisations, leurs langues et leur psychologie. Forte de ce savoir infini, la grande race piochait dans chaque époque et chaque forme de vie les concepts, arts et procédés qui convenaient à sa nature et à sa situation. Les connaissances du passé, recueillies au moyen d'une projection spirituelle échappant au sens dont l'existence est reconnue, étaient plus difficiles à glaner que celles du futur. Pour ces dernières, la démarche était plus simple, plus concrète. Avec une assistance mécanique idoine, l'esprit pouvait se projeter en avant dans le temps et, à force de tâtonnements extrasensoriels, atteindre la période choisie. Ensuite, Après une série de tests préliminaires, il s'emparait du meilleur représentant possible de la plus haute forme de vie de l'époque. Il pénétrait le cerveau de l'organisme et lui imposait ses propres vibrations, tandis que l'esprit expulsé était envoyé au temps de l'intrus, dont il occupait le corps en attendant un nouvel échange en sens inverse. L'esprit projeté dans l'organisme du futur se faisait passer pour un membre de la race dont il avait la forme extérieure et apprenait aussi vite que possible tout ce qu'il y avait à savoir sur l'époque en question et sur les informations et techniques accumulées. Pendant ce temps, l'esprit déplacé, rejeté dans le temps et le corps de l'usurpateur, était sous bonne garde. On l'empêchait de faire du mal à l'enveloppe qu'il occupait, et des enquêteurs chevronnés lui soutiraient tout ce qu'il savait. Souvent, ils étaient en mesure de l'interroger dans sa propre langue. Il suffisait pour cela que des missions antérieures aient rapporté du futur des données sur l'idiome en question. Si l'esprit venait d'un corps dont la grande race ne pouvait reproduire le langage pour des raisons physiques, on construisait d'ingénieuses machines sur lesquelles il était possible de jouer la langue, comme on joue de la musique avec un instrument. Les individus de la grande race étaient d'immenses cônes striés de 3 mètres, et dont la tête et les autres organes étaient attachés à des membres extensibles d'une épaisseur de 30 centimètres, partant en tous sens du sommet de leur corps. Ils communiquaient en cliquetant et en frottant les énormes pattes ou pinces qui terminaient 2 de leurs 4 membres, et se déplaçaient en étirant et en contractant une couche visqueuse à la base du cône, qui mesurait elle aussi 3 mètres de diamètre. Une fois passée la stupeur et le ressentiment du captif, mais aussi son horreur dans les cas où il venait d'un corps infiniment différent de celui qu'il occupait temporairement, on l'autorisait à étudier son nouvel environnement, afin qu'il connaisse l'émerveillement, ainsi qu'une sagesse comparable à celle de son remplaçant. Avec les précautions adéquates et en échange de services rendus, on lui permettait de sillonner tout le monde habitable dans de titanesques nefs volantes, de courir les grandes routes à bord d'énormes véhicules semblables à des bateaux propulsés par des moteurs atomiques, ou d'étudier à son gré dans les bibliothèques où l'on rangeait les documents sur le passé et le futur de la planète. Grâce à cela, bien des esprits captifs acceptèrent leur sort, car tous avaient une intelligence pénétrante et, pour de tels cerveaux, découvrir les secrets cachés de la Terre, les chapitres clos d'un passé inconcevable ou le tourbillon enivrant d'un futur postérieur à leur propre époque était forcément l'expérience d'une vie, et ce, malgré les horreurs sans bornes qu'ils rencontraient souvent dans leur quête. Il arrivait que l'on autorise certains d'entre eux à rencontrer d'autres captifs venus du futur, afin qu'ils échangent des idées avec des êtres conscients, vivant 100 ou 1000 ans, ou même 1 million d'années avant ou après leur époque propre. Et on les encourageait tous à écrire abondamment dans leur propre langue sur eux-mêmes et leur époque, afin de classer leurs témoignages dans les grandes archives centrales. On peut ajouter qu'il existait un type particulier de prisonniers jouissant de privilèges bien supérieurs à ceux de la majorité. Il s'agissait des mourants, exilés permanents, dont des membres de la grande race à l'intelligence aiguisée, cherchant à éviter l'extinction de leur esprit à l'approche de la mort, s'étaient appropriés le corps dans le futur. Ces tristes exilés n'étaient pas aussi répandus qu'on pourrait le croire, car la longévité de la grande race amoindrissait son amour de la vie, surtout chez les esprits supérieurs capables de projection. Le cas de transfert permanent d'esprits anciens explique nombre de changements durables de personnalité dans l'histoire récente, y compris celle de l'humanité. Quant au cas d'exploration ordinaire, une fois l'explorateur satisfait de ce qu'il avait appris dans le futur, il suffisait de fabriquer un appareil comme celui qui lui avait permis d'entamer son voyage et d'inverser le processus de projection. Le voyageur regagnait son corps et son époque, et l'ex-captif recouvrait sa vraie place dans le futur. La seule chose qui pouvait rendre ce rétablissement impossible était la mort d'un corps ou de l'autre pendant la période de l'échange. Dans de tels cas, bien entendu, l'esprit explorateur, tout comme ses semblables cherchant à échapper à la mort, devait vivre toute sa vie dans le futur et dans un corps étranger, ou à l'inverse, l'esprit captif, comme les exilés permanents moribonds, devait finir ses jours à l'époque de la grande race et sous la forme d'un de ses membres. Ce sort était moins terrible quand l'esprit captif appartenait lui aussi à la grande race, ce qui n'avait rien d'inhabituel puisque ce peuple, de toute éternité, s'était toujours beaucoup inquiété de son propre avenir. Le nombre de mourants exilés permanents appartenant à la race était très réduit, principalement à cause des sévères sanctions prévues pour les moribonds tentés de se projeter dans le corps d'un futur congénère. Par l'intermédiaire de la projection, on prenait les mesures nécessaires pour infliger ces sanctions aux esprits contrevenants alors qu'ils occupaient leur nouveau corps. Il arrivait même parfois qu'on les oblige à retourner dans leur enveloppe mourante. Des cas complexes de remplacement d'esprits déjà captifs ou en exploration par d'autres esprits venus de différentes périodes du passé avaient été constatés et soigneusement rectifiés. À toutes les époques depuis la découverte de la projection mentale, une partie infime mais bien identifiée de la population était composée d'esprits de la grande race venus du passé pour séjourner plus ou moins longtemps dans le futur. Quand on renvoyait un esprit captif d'origine étrangère dans son vrai corps, on le purgeait au moyen d'une complexe hypnose mécanique de tout ce qu'il avait appris à l'époque de ses hôtes. On cherchait par là à éviter les conséquences fâcheuses accompagnant la diffusion prématurée de quantités massives de connaissances. Les quelques cas de renvoi sans purge avaient provoqué de grands désastres et continueraient d'en provoquer dans le futur, à des dates connues à l'avance. Ce fut en bonne partie suite à deux affaires de ce genre, affirmait-on dans les vieux mythes, que l'humanité avait appris ce qu'elle sait de la grande race. En guise de traces matérielles directes de ce monde remontant à des millions et des millions d'années, il ne restait que quelques ruines aux pierres énormes dans des lieux reculés sous la mer et des fragments du texte des effroyables manuscrits pnakotiques. L'esprit réintégrant son époque ne gardait en mémoire que des visions aussi fugaces que parcellaires de ce qu'il avait subi depuis son enlèvement. Était effacé tout ce qui pouvait l'être, si bien que dans la majorité des cas, il ne subsistait de la période du remplacement qu'un grand blanc peuplé de rêves sombres. Certains avaient plus de mémoire que les autres, et le partage fortuit des souvenirs avait, en de rares occasions, fourni au futur des indices sur le passé interdit. Sans doute, n'y eut-il pas une seule époque où les groupes ou cultes n'aient vénéré en secret certains de ces indices. Le Necronomicon évoquait la présence parmi les humains d'un culte de ce genre qui, quelquefois, apportait son aide aux esprits de ceux de la grande race qui avaient voyagé à travers les âges. Et pendant ce temps, la grande race, devenue presque omnisciente, entreprenait d'opérer des échanges avec des esprits d'autres planètes afin d'explorer leur passé et leur futur. Elle cherchait aussi à sonder l'histoire et l'origine de ce globe noir, depuis longtemps mort, dans les profondeurs de l'espace. C'était de là qu'elle tenait son héritage mental, sa conscience étant apparue alors même qu'elle n'avait pas encore d'enveloppe corporelle. Ces êtres d'un monde ancien et moribond, forts de la connaissance de ses ultimes secrets, avaient cherché dans l'avenir un nouvel univers et une nouvelle espèce qui leur assurerait une vie pérenne. Ils avaient envoyé leurs esprits en masse dans la race future la plus âpre à les recevoir, à savoir celle des créatures coniques qui peuplaient notre terre il y a 1 milliard d'années. La grande race était née en condamnant les innombrables esprits qu'elle avait envoyés prendre sa place à connaître une mort effroyable dans un corps étranger. Par la suite, elle serait de nouveau confrontée à sa propre extinction, mais survivrait grâce à une nouvelle migration temporelle de ses plus grands esprits dans d'autres corps dotés d'une meilleure espérance de vie. Telle était la toile de fond sur laquelle s'entrelaçaient légendes et hallucinations. Vers 1920, lorsque mes recherches prirent une forme cohérente, je sentis baisser légèrement la tension que mes premières études avaient renforcée. Après tout, et en dépit des fantasmes suscités par les émotions aveugles, la plupart des expériences que j'avais vécues n'étaient-elles pas aisément explicables? Un hasard quelconque avait pu me conduire à entreprendre des études occultes pendant mon amnésie, puis j'avais lu les légendes interdites et rencontré des adeptes de cultes antiques et oni. De toute évidence, cela suffisait à expliquer les rêves et problèmes émotionnels survenus après le retour de la mémoire. Quant aux annotations rédigées en hiéroglyphes fantaisistes et dans des langues que je ne parlais pas, annotations que les bibliothèques m'attribuaient, dans mon état second, j'avais fort bien pu acquérir quelques notions dans ces langues. Les hiéroglyphes étaient sans aucun doute le fruit de mon imagination qui, après avoir puisé dans les descriptions des vieilles légendes, les avait retranscrites dans mes rêves. J'essayais de vérifier certains points en discutant avec les maîtres de culte connus, mais ne parvins jamais à établir les liens adéquats. Le parallélisme de tous ces cas, pourtant fort espacé dans le temps, continuait parfois de m'inquiéter comme au premier jour. Mais je me rassurais en me disant que ce passionnant folklore était plus répandu autrefois qu'à notre époque. Sans doute, par le passé, les victimes de crises semblables à la mienne avaient-elles baigné toute leur vie dans les contes dont j'avais moi-même seulement appris l'existence alors que je me trouvais dans mon état second. En perdant la mémoire, elles s'étaient associées aux créatures des mythes propres à leur société, à ces fabuleux envahisseurs censés usurper l'esprit des hommes, et s'étaient mises en quête d'un savoir qu'elles pensaient pouvoir rapporter dans un passé non humain, imaginaire. Puis, lorsqu'elles recouvraient la mémoire, le processus associatif s'inversait, et elles s'imaginaient dans le rôle de l'ancien captif au lieu de celui de l'intrus. D'où la ressemblance des rêves et pseudo-souvenirs avec le modèle du mythe conventionnel. Malgré leur apparente maladresse, ces explications finirent par supplanter toutes les autres dans mon esprit, notamment à cause de la faiblesse des autres théories possibles. De plus, nombre d'éminents psychologues et anthropologues se rangeaient progressivement à mon avis. Plus j'y pensais, plus mon raisonnement me semblait convaincant, ce qui me permit finalement de dresser un rempart très efficace contre les visions et impressions qui continuaient de me hanter. Si, par exemple, je voyais quelque chose de bizarre une nuit, cela ne pouvait être que la conséquence de mes lectures et discussions. S'il m'arrivait d'avoir des répugnances, des points de vue ou des pseudo-souvenirs anormaux, il s'agissait là aussi de simples échos des mythes assimilés dans mon état second. Rien de ce que je pouvais rêver ou ressentir n'avait de véritable signification. Cette philosophie me renforça et me permit de faire de très nets progrès en matière d'équilibre nerveux, alors même que les visions, plus que les impressions abstraites, se faisaient toujours plus fréquentes et plus troublantes de précision. En 1922, me sentant prêt à reprendre un travail régulier, je mis en pratique mes nouvelles connaissances en acceptant un poste de moniteur au département de psychologie de l'université. Mon ancienne chaire d'économie politique était depuis longtemps occupée par un titulaire compétent, sans compter que les méthodes d'enseignement des sciences économiques avaient beaucoup évolué depuis mon époque. Au même moment, mon fils commençait le doctorat qui le mènerait à sa chaire actuelle, si bien que nous travaillions beaucoup ensemble.